Bonjour à tous, petits et grands. Bienvenue dans ce moment de célébration de Noël avec toute la grande famille des APEB. Nous aurons l'occasion pendant ce moment connecté ensemble chez vous à la maison de nous rappeler à travers vous les enfants de toute la Belgique mais aussi de chants venant de Namur, Charleroi, la Louvière et du Brabant wallon ainsi que de lectures, d'une illustration et d'une méditation sur ce que représente Noël. Mais commençons par les enfants. Christine, je crois que tu as réussi, et je t'en remercie, à récolter la vision des enfants sur Noël. Peux-tu nous en dire un peu plus ?
Noël, qu'est-ce que c'est Noël ? Voilà une question qui, cette année, plus que les autres, nous interpelle. Quel est le vrai sens, la vraie valeur de Noël ? Les enfants de toutes nos communautés ont été appelés à répondre à cette question. Ils ont été nombreux, avec la complicité de leurs parents, à se filmer chacun de chez eux. Aujourd'hui, je veux les remercier. Je veux vous remercier, vous les enfants, pour votre travail. Vous les parents aussi, pour votre soutien. Et enfin, vous les responsables d'école du dimanche qui avez servi de relais précieux pour ce projet. Alors les enfants, je suis sûre que vous êtes impatients de découvrir le résultat final promis. Et nous, adultes, laissons-nous interpeller par leur sourire, leur enthousiasme, leur réflexion.
Regarde, Liam, qu'est-ce que c'est ?
Waouh ! Et ici, il y a quoi dedans dans la caisse ?
La boule !
Oh, une jolie boule ! Et ici, regarde.
C'est un petit lapin.
C'est un bonhomme de neige.
On ne va pas le jeter.
Est-ce que tu sais ce que c'est Noël ?
Non.
Et si on demandait aux autres enfants ? Écris avec moi.
On écrit.
C'est Noël.
Just hear those sleigh bells jingling, ring ding dingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. Just holding your hand. We're gliding along with a song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and and comfy, cozy are we. We snuggle close together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. There's a birthday party at the home of Farmer Gray. It'll be the perfect ending of a perfect day. We'll be singing the songs we love to sing without a single stop. At the fireplace where we'll watch the chestnuts pop. Pop, pop, pop. There's a happy feeling nothing in this world can buy. When they pass around the coffee and the pumpkin pie, it'll nearly be like a picture print by Courier and Ives. These wonderful things are the things we remember all through our lives. Outside the snow is falling and friends are calling you.
comfy, cozy are we. We've snuggled close together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. It's lovely weather for a sleigh ride together with you.
Lecture de Luc, chapitre 1, les versets 26 à 38. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen.
Savais-tu, attends tes mois.
Lecture de Luc chapitre 2, les versets 1 à 8. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Sébastien, pourrais-tu nous dire un petit peu plus sur cette histoire, ces bergers et cette naissance ?
Doël. Qu'est-ce que Doël pour vous ? Pour beaucoup, Doël, c'est une fête, avec un sapin. Des boules de Doël suspendues à ce sapin. Mais ce sont des boules de Noël bien souvent creuses, vides, sans aucune signification. Noël est bien plus que cela. Noël, c'est Dieu qui vient jusqu'à nous. C'est Dieu qui veut nous parler de son amour et nous apporter la lumière. Une lumière qui vient de lui, de son amour. Une lumière que l'on retrouve dans ce livre, la Bible. Si vous ouvrez la Bible, vous découvrirez la véritable histoire de Noël. C'est une histoire merveilleuse, une histoire pour vous encore aujourd'hui. Dans cette histoire, vous verrez que Dieu a envoyé son fils Jésus, qui était venu dans son peuple pour être le roi, comme cette couronne que vous voyez, pour être le roi, qui allait briller sur toute la terre, telle une lampe au milieu des ténèbres. C'est ainsi que le peuple assis dans les ténèbres voit une grande lumière. En effet, sur ceux qui sont assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée, et Dieu place en ce jour-là, une étoile dans le ciel, une étoile particulière, avec un éclat merveilleux. Hélas, les gens sont occupés par leurs activités, les riches sont dans leur palais, en train de goûter au plaisir de la vie, les religieux sont penchés sur eux-mêmes, se satisfaisant de leurs connaissances. Alors Dieu va éveiller des hommes qui habitent au loin et qui arriveront à Bethléem plus tard, des hommes qui ont vu cette étoile dans le ciel. Mais pour ceux qui sont dans la région, non loin de là, Dieu va se révéler à quelques simples personnes du peuple, des bergers, qui gardent leurs troupeaux au champ durant les veilles de la nuit. Dieu va se révéler à eux parce que si pour les grands, ils n'ont pas d'importance, pour Dieu, ces petites gens ont de l'importance. Au contraire d'Hérode, l'imposteur qui est sur le trône, alors que le trône revient à Jésus. Dieu va leur annoncer une très grande nouvelle. C'est ainsi que tout d'un coup, dans la nuit, le ciel s'ouvre et apparaît un ange. Ils n'ont jamais rien vu de tel, c'est à peine croyable. Et pourtant ils le voient de leurs yeux, et ils entendent de leurs oreilles le message suivant, qui se trouve dans la Bible. N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant bailloté et couché dans une crèche. Et soudain, d'autres anges apparaissent et tous ensemble, ils louent Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Et les bergers sont justement de ceux-là. Ces bergers qui sont occupés avec leurs troupeaux, avec leurs brebis, avec leurs agneaux. Mais ils n'hésitent pas un instant à quitter leur troupeau pour aller voir ce qui leur a été dit. Ils laissent le troupeau pour voir l'enfant. Et cet enfant-là, ils le voient arriver sur place et ils réalisent que l'enfant qui est couché là dans une mangeoire est celui que Dieu a envoyé pour sauver le monde, pour sauver le peuple. Et alors ils retournent vers les autres et ils racontent ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu. Et tous ceux qui l'entendent sont dans l'étonnement. C'est en effet un mystère. C'est un mystère que Dieu a fait en envoyant son Fils. Ils ne peuvent pas tout comprendre, mais ils sont bénéficiaires d'une telle grâce. Oui, le Fils de Dieu est venu sur la terre pour sauver sa créature, pour la délivrer de ses péchés et lui donner la vie éternelle. Alors, toi qui m'écoutes en cet instant, que vas-tu faire de cette histoire vraie? Est-ce seulement une belle histoire pour le soir de Noël ou le début de l'histoire de ta nouvelle vie? Une vie avec Jésus dans ton cœur, une vie où tu seras délivré de la nuit du péché, de la peur de l'obscurité, une vie où tu pourras marcher dans la lumière de Dieu. Les bergers, eux, ils sont retournés à leur travail, ils sont retournés garder leur troupeau, mais ce n'était plus tout à fait la même chose. Ils étaient transformés, et dans leur cœur, il y avait la joie. Ils savaient que Jésus était venu sur la terre pour sauver les hommes. Une étoile brillait non plus seulement dans le ciel, mais elle brillait aussi dans leur cœur, cette étoile. Et est-ce que tu veux aussi que cette étoile brille dans ton cœur? L'homme ne peut pas aller vers Dieu, alors c'est Dieu qui est venu à lui, en prenant un corps humain. Jésus, le Fils de Très-Haut, celui que tout l'univers entier ne peut contenir, a accepté de s'abaisser jusqu'à la terre et de naître comme un petit enfant. Fallait-il qu'il aime les hommes pour faire cela? Mais à quoi sert-il de connaître ces choses qui sont dans la Bible si tu n'ouvres pas ton cœur à Jésus? À quoi sert-il de savoir que Jésus est né à Bethléem s'il ne naît pas dans ta vie, s'il ne vient pas dans ton cœur et ne grandisse pour prendre la première place tel un roi? Jésus veut, et peut-être à cet instant même ton sauveur, mais aussi ta lumière, ta force et ton ami. Qu'attends-tu pour croire en lui et devenir un enfant de Dieu aujourd'hui et à jamais? Aujourd'hui, Jésus est vivant. L'est-il dans ton cœur? Accepte-le pour sauveur. C'est le plus beau cadeau de Noël que tu peux te faire. Ce cadeau de Noël qui se trouve là, dans l'histoire de la venue de Jésus sur la terre. Si tu crois dans ton cœur que c'est vrai, tu auras le plus beau cadeau que tu n'as jamais eu. Et alors après, tu pourras, comme les bergers, aller raconter aux autres que tu as reçu ce cadeau, et que ce cadeau, il est pour la terre entière. Ce cadeau, il est pour le monde entier. Là où tu es, là, mais aussi pour tous les pays, pour tous les peuples, Jésus est venu. Jésus est venu cette nuit-là pour sauver les hommes et pour te sauver, toi. Accepte-le et ta vie sera complètement transformée.
Thank you.
dans nos habitudes de laisser, à l'occasion de la fête de Noël, une place importante aux enfants. Et nous souhaitions maintenir cela, malgré la pandémie. C'est ainsi que, grâce au virtuel, quelques enfants et ados ont fait connaissance pour enregistrer ensuite ensemble, à distance, le remake d'un jeu bien connu. Que de talent! Alors, jouez-vous aussi de chez vous. Testez vos connaissances, mais surtout, ouvrez-vous à la réflexion avec eux.
Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue dans votre émission « Questions pour celui qui cherche le chemin, la vérité et la vie ». Ce soir, c'est la finale de Noël. Sans plus tarder, nous allons accueillir nos candidats qui nous ont rejoints via leur ordinateur, raison sanitaire oblige. Bienvenue à Chloé.
Bonjour, bonjour.
Thème.
Hello tout le monde.
Fatoumata.
Salut.
Et notre quatrième candidate, Margot.
Coucou tout le monde.
Comme chaque soir, nous serons bien évidemment accompagnés de notre spécialiste. Bonsoir, professeur Sacha.
Bonsoir.
Je vous propose, sans plus tarder, de commencer la partie. Attention, première question. Où Jésus est-il né ?
Jérusalem.
Non, c'est là où il a été arrêté, jugé et crucifié.
À Nazareth.
Non plus.
À Bethléem.
Oui, bonne réponse. Dès l'Ancien Testament, la naissance de Jésus est annoncée à Bethléem. Vous nous confirmez cela, professeur ?
Michée 5, verset 1 nous dit « Le Seigneur dit, et toi, Bethléem, Ephrata, tu es un petit village parmi ceux des clans de Juda. Pourtant, celui qui doit gouverner Israël, je le ferai sortir de chez toi. »
Merci, professeur, de nous éclairer. On va continuer tout de suite avec la deuxième question. Dans quel bâtiment Jésus est-il né ?
Ça, je sais, à la maternité.
Disons que ça n'existait pas.
À la maison.
Impossible. Ses parents étaient en voyage pour aller se faire recenser.
Moi, je sais, dans une étable.
Excellent. Comme il n'y avait pas de place à l'hôtel, Marie et Joseph ont été obligés de se loger dans une étable. Dans le même domaine, troisième question. Dans quoi Jésus a-t-il été placé par sa maman ?
Dans une écharpe pour bébé, tout le monde sait ça.
Il y a un gros problème d'époque.
Dans un berceau.
Elle aurait sûrement préféré, mais non.
Une mangeoire.
Tout à fait. C'est le seul abri qu'elle a pu trouver. Professeur ?
Dans le chapitre 2, au verset 1 à 7, nous trouvons ceci. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage.
Et maintenant, passons à la quatrième question. Quelle est sa date de naissance ?
Le 21 juillet.
Oula ! Vous avez des légers problèmes avec l'histoire, vous.
Le dimanche de Pâques.
Et vous, avec l'histoire de Jésus ?
Le 25 décembre. Non, voyons, tout le monde sait ça.
Oui, et en fait, non. En réalité, la Bible ne dit pas précisément. Attention, on continue avec la cinquième question. Quels animaux étaient présents dans l'étable ?
Un lièvre et une tortue.
Vous avez des problèmes avec vos classiques.
Un âne et un bœuf.
Non plus.
Aucun ?
Exactement. Bien que l'âne et le bœuf fassent partie de la tradition de Noël, la Bible ne mentionne absolument pas leur présence, ni celle de tout autre animal auprès de Jésus dans l'étable. Continuons tout de suite avec la sixième question. Quelles sont les premières personnes à se rendre auprès de Jésus ?
Le pédiatre.
Oui, je pense pas que ce métier existait à l'époque.
Les grands-parents.
Ça peut sembler logique.
Les bergers.
Bravo. En effet, avertis par les anges, les bergers de la région de Bethléem, des gens simples et pauvres, sont les premiers à se rendre auprès de Jésus. Septième question, toujours concernant les bergers. À quel moment l'ange leur est-il apparu ?
Le matin, au lever du soleil.
Ah bon ?
Au coucher du soleil.
Non plus.
La nuit.
Effectivement. Dites-nous, professeur.
Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs. Et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière, alors ils ont très peur. L'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un enfant, un petit enfant, enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. »
Décidément, cette histoire est passionnante. Bon, continuons avec la huitième question. Quels autres personnages ont rendu visite à Jésus ?
L'épiphanie.
Ah, là il y a une grosse confusion.
Les trois mages Gaspard, Melchior et Balthazar.
C'est ce que les gens disent, mais c'est pas tout à fait ça.
Des sages venus d'Orient.
Oui, effectivement. Il semble certain que c'était des savants, probablement spécialisés dans l'étude des étoiles, un peu comme des astronomes. Mais il n'est évoqué ni leur nom, ni leur nombre. Et toujours à leur propos, neuvième question, qu'ont-ils offert à Jésus ?
Trop facile, des Playmobil, bien sûr.
C'est une idée, mais non.
Nintendo DS, c'est plus moderne.
On reconnaît les amateurs.
De l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Tout à fait.
Écoutez plutôt, l'évangile de Matthieu nous raconte ceci. Au début du chapitre 2, des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. » Puis, plus loin, ils aperçoivent l'étoile qu'ils ont vue à l'Est. Ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant. L'étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve et elle s'arrête là. Les sages entrent dans la maison. Ils voient l'enfant avec Marie. Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Ensuite, ils ouvrent leurs bagages et lui offrent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Attention, nous voilà déjà à la dernière question. Et elle est décisive. Quel est le sens réel de Noël ?
La fête et un beau repas.
Ça, c'est plutôt la tradition.
Le sapin et les cadeaux, c'est plus important, voyons.
C'est vrai que ce sont des choses agréables, mais c'est pas vraiment le sens profond de Noël.
Un enfant est né pour nous. Un fils nous est donné, il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne un nom, conseiller merveilleux. Dieu fort, père pour toujours, prince de la paix. Voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brûlant amour.
Nous arrivons déjà au terme de cette soirée, riche en rebondissements et surtout en enseignements. Chers candidats, vous avez fait beaucoup d'efforts pour gagner, mais nous ne sommes pas en mesure de déclarer l'un d'entre vous gagnant aujourd'hui. Vous êtes donc tous ex aequo, d'ailleurs, comme tous ceux qui suivent l'exemple de la vie du Seigneur Jésus et qui placent leur confiance en lui, qui croient qu'il est vraiment le Fils de Dieu.
car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16.
Merci professeur. Cela nous donne encore à réfléchir. Merci à tous pour cette belle soirée. Merci chers candidats pour votre participation. À très bientôt pour un nouveau question pour celui qui cherche le chemin, la vérité et la vie. Et surtout, joyeux Noël.
Joyeux Noël.
Lecture de Luc, chapitre 2, les versets 25 à 34. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et, comme les parents apportaient le petit, enfant Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire pour d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Amen. Claude, pourrais-tu nous dire un peu plus sur cet enfant qu'on appellera Jésus-Christ ? En quoi la venue de cet enfant changera le monde ?
Je prendrai 20 minutes de ce temps pour affirmer et démontrer à mon voisin de cabine que Dieu existe et qu'il est créateur de l'univers, et 10 minutes pour lui parler du salut en Jésus-Christ. Cette affirmation a été prononcée par Francis Schaeffer, un théologien, philosophe, un apologète américain décédé dans les années 1980 et qui avait fondé l'Abri à Uemos, petit village des Alpes suisses, un lieu qui accueillait et qui accueille encore aujourd'hui des personnes en questionnement sur Dieu et sur la foi. Je redis ces paroles. Si j'étais dans un avion qui dispose encore de 30 minutes de vol avant de se crasher, je prendrais 20 minutes de ce temps pour affirmer et démontrer à mon voisin de cabine que Dieu est créateur et 10 minutes pour lui parler du salut en Jésus-Christ. Déclaration étonnante. Je pense que si nous avions 30 minutes pour présenter l'évangile à quelqu'un qui va mourir, il est à peu près certain que nous mettrions toute notre énergie à lui prouver que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur du monde et qu'il n'y a de salut qu'en lui. Pas une démarche parfaitement légitime, mais est-elle la plus pertinente ? En agissant ainsi, prenons-nous, si on peut dire, l'histoire du salut par le bon bout. C'est évident que Pâques est l'apothéose de l'histoire du salut dans le rappel de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais si nous n'avons pas commencé à parler à notre interlocuteur du Dieu créateur et du sens de l'histoire, nous aurons probablement beaucoup plus de peine à lui faire comprendre la nécessité de la croix. Ce n'est pas sans signification que les premiers versets de la Genèse nous disent « Dieu ». Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous ne sommes pas le fruit d'un destin aveugle et capricieux. L'histoire du cosmos, l'histoire du monde et notre histoire s'inscrivent dans un plan conçu de toute éternité. Nous sommes en présence d'un projet cohérent. L'existence objective du Dieu infini et personnel qui se fait connaître par les Écritures. En affirmant avec force et détail que le monde a été créé, le texte de la Genèse est une bonne nouvelle. Il n'est pas, comme le suggèrent certains mythes orientaux, le fruit des disputes et des rivalités, des combats entre divinités, ou plus proche de nous, le résultat de mutations hasardeuses qui auraient transformé, complexifié la matière en y faisant émerger la vie. Nous ne sommes pas le fruit du hasard et de la nécessité, mais le fruit d'une décision souveraine de Dieu. Une bonne nouvelle qui affirme que Dieu n'est pas seulement créateur, mais qu'il construit et entretient une relation d'amour avec sa création et ses créatures. Il n'est pas l'horloger de Voltaire, qui après avoir créé se serait retiré de sa création, la laissant livrée à elle-même. Dans un monde qui nous semble bien souvent, trop souvent absurde, et le Covid En bouleversant notre vie sociale, augmente encore plus ce sentiment d'inutilité, de temps perdu, d'abandon, d'extrême fragilité devant les dégâts produits par un simple virus, conforte ce sentiment d'absurdité. Quel est le sens de notre existence ? Serait-ce de naître, de consommer, et puis de mourir ? Croire en un Dieu créateur inscrit notre histoire communautaire, mais aussi notre histoire individuelle, dans un projet, dans un plan qui a du sens. C'est ce que rappelle l'apôtre Paul dans ce premier chapitre de sa lettre aux chrétiens d'Éphèse. Dieu nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. Avant même que Dieu n'élabore son projet de création, nous étions déjà, collectivement, mais aussi individuellement, présents dans ses plans. Étonnant et bouleversant de découvrir que notre élection est antérieure à la création elle-même. Une parole qui devrait nous conduire au silence et nous permettre de mesurer l'extraordinaire affirmation qui est là. Nous ne sommes pas livrés à un destin aveugle et totalement indifférent à notre condition. Nous sommes en Jésus-Christ aimés, aimés de toute éternité et pour l'éternité. Ce projet de Dieu de réaliser une humanité parfaite a été pleinement accompli. Au terme du récit de la création, toujours à la fin de ce premier chapitre de la Genèse, Dieu s'accorde en quelque sorte un satisfecit. Il regarde son œuvre de création et la trouve très bonne, c'est-à-dire parfaitement conforme à ses plans. Mais, et les mets sont nombreux dans l'Écriture, pour nous indiquer un basculement d'un état dans un autre, d'une réalité dans une autre. Le « mais » dans le chapitre 3 de la Genèse va prendre la forme d'un grain de sable aux conséquences universelles qui va venir compromettre durablement la perfection de l'œuvre créée. L'homme a corrompu la création parfaite de Dieu. Le péché et son cortège de mort est entré dans le monde par la désobéissance d'un seul, nous dira l'apôtre Paul. La rupture de l'alliance, parce que le péché introduit une rupture. On parlera très souvent de chute, mais il me semble que ce terme n'est pas le meilleur. Je lui préfère le terme de rupture pour indiquer que quelque chose s'est cassé entre Dieu et sa création. Entre Dieu et ses créatures. Cette rupture de l'alliance, aux conséquences universelles, va demander réparation. Et tout au long du Premier Testament, Dieu va offrir à l'homme des chemins de salut, à travers des lois, des sacrifices, des alliances, qui vont être systématiquement brisées et qui vont demander de sa part de mettre en œuvre un moyen de salut conçu de toute éternité qui satisfasse pleinement sa justice et son amour. Les premiers versets de la lettre aux Hébreux résument bien cette démarche. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à bien des reprises et de bien des manières par les prophètes, mais maintenant, en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers et c'est lui qui l'a établi héritier de toutes choses. Toute l'œuvre du salut se trouve résumée dans ces versets. Les révélations de Dieu dans le Premier Testament n'étaient qu'annonces, préfigurations de son œuvre de salut accomplie en Jésus-Christ. Soulignons que ce verset mentionne clairement la présence et l'action du Christ dans l'œuvre de création. C'est par lui, Jésus-Christ, que Dieu a créé l'univers, nous dit la traduction en français courant, et l'auteur des Hébreux poursuit en indiquant la nature et l'œuvre continuée de ce Fils. Ce Fils dont nous rappelons la naissance est reflet de la gloire divine, expression même de ce que Dieu est, pleinement Dieu et dans son incarnation pleinement homme. Et il est pleinement agissant à l'œuvre au cœur même de l'univers et plus intimement agissant au cœur même de nos vies par son esprit. Parler de la centralité de la création et du plan de salut de Dieu pour l'homme nous conduit tout naturellement à Noël. Si Dieu n'était pas, si le ciel était vide de toute présence, la naissance d'un enfant dans une crèche à Bethléem serait passée aux oubliettes de l'histoire. Des naissances dans la pauvreté comme celle de Jésus, il y en a eu des centaines de millions au cours de l'histoire et il y en aura encore bien des nombreuses dans les années qui viennent. Mais cette naissance-là est particulière, unique, extraordinaire. Dieu, en Jésus-Christ, prend corps dans notre histoire humaine. Son œuvre sera de nous montrer le Père et nous permettre par sa vie donnée, sa mort et sa résurrection de retrouver le chemin d'une communion avec Dieu, brisée par le péché. Jésus n'est pas un simple prophète ou un messager, porteur d'un message d'amour et de paix. Il est lui-même amour et paix. Beaucoup voudraient réduire le Christ à cette seule dimension, celle d'un sage qui, par sa vie et son enseignement, est venu apporter un peu de paix et de consolation dans un monde déchiré par la violence et la haine. Non. Cet homme qui a croisé notre route humaine n'est pas un doux rêveur, mais Dieu lui-même, prenant notre condition, s'incarnant dans notre chair. Le mystère absolu de la révélation chrétienne, c'est celle du Dieu créateur qui s'incarne, prend notre condition humaine, l'assume jusqu'au bout et meurt sur la croix, en prenant sur lui tout ce qui nous sépare de son Père. La bonne nouvelle de la création se poursuit donc dans la bonne nouvelle d'une naissance. Prélude à la bonne nouvelle qui va changer la face du monde, par sa mort et sa résurrection, l'enfant de Bethléem, Jésus-Christ, nous réconcilie avec son Père et nous ouvre un chemin de communion et d'éternité. Voilà ce que nous sommes invités à rappeler, à actualiser en ce temps de Noël comme l'ange l'a annoncé au berger étonné. N'ayez pas peur. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, il est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et tout à coup, poursuit l'évangéliste Luc, il y eut une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Noël nous est donné pour nous dire avec force que Dieu n'est pas resté indifférent à notre condition d'homme et de femme séparés de lui par nos désobéissances, nos lâchetés, nos abandons, mais qu'un chemin de pardon et de réconciliation nous est offert en son Fils Jésus-Christ. À travers sa parole, il nous dit que nous sommes aimés et qu'il a un projet concret pour chacune de nos vies. Dans l'agitation de ce temps particulier, il nous dit « N'ayez pas peur ». Et nous avons besoin d'entendre ces paroles dans ces temps difficiles. Mais il ajoute encore « N'ayez pas peur, je vous donne ma paix, mais non pas à la manière du monde ». La peur est source d'angoisse, de repli sur soi, de méfiance. Et nous en faisons tous l'expérience en ce temps de Covid. En nous invitant à ne pas avoir peur, Jésus nous propose clairement un chemin d'apaisement, parce que ses promesses sont vraies et solides. Nous pouvons parler de paix en ce temps de Noël, Mais il ne faudrait pas que cette paix ne soit qu'une parole prononcée parmi beaucoup d'autres, et donc sans grand impact dans la vie. Pour véritablement parler de paix et en vivre concrètement, il est essentiel de nous rappeler sur qui et sur quoi elle se fonde. Et nous revenons à notre point de départ. Nous sommes en paix parce que Dieu est maître de l'histoire et que le plan du salut offert en Jésus-Christ est ferme et solide. Une paix profonde, durable, qui chasse la peur. C'est la bonne nouvelle de Noël que nous voulons expérimenter et partager autour de nous. En Jésus-Christ, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Amen.
Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le coup. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple debout, attends ta délivrance. Thank you.
fin de cette célébration de Noël. Nous espérons que ces moments vous auront apporté paix et joie dans ce temps d'attente de la venue du Sauveur du monde, lumière pour les nations. Je tenais à remercier chacun pour la pierre qu'il a apportée à cet édifice, que ce soit devant ou derrière la caméra, afin de rendre ce projet possible. Merci au CERAP pour sa confiance et particulièrement à Claude Villain avec qui j'ai collaboré pour réaliser ce projet. Merci aussi à Benjamin Wautier qui a réalisé le montage dans les coulisses. Nous terminerons ce moment par une touche poétique avec Julie et Lucie de l'Assemblée de Carnières. Mais avant de leur laisser le mot de la fin, je tenais à vous souhaiter à tous de très belles fêtes de fin d'année et surtout un joyeux Noël.
S'il n'était pas venu, que ferions-nous de nos fardeaux, lorsque chargés n'en pouvant plus, environnés de mille maux ? S'il n'était pas venu, étant tout seul sur le chemin, découragé et abattu, et redoutant le lendemain ? S'il n'était pas venu, qui alors pour nous défendre ? L'ennemi nous aurait vaincus, capitulés et se rendre. S'il n'était pas venu, au nom de qui pour nos prières ? Nous serions tous si dépourvus pour déposer notre misère. S'il n'était pas venu, face à la vie et son déclin, et puis la mort, cet inconnu, moment terrible de la fin. Il est bienvenu, gloire à Dieu, la bonne nouvelle. Nous apportons son grand salut, c'est le message de Noël.
Il est venu ! Depuis les temps anciens, les écrits l'annonçaient, qu'il viendrait chez les siens, vers ceux qui l'attendaient. Pour lui, point de place, dans l'hôtel le plus beau, une crèche remplace le plus douillet berceau. L'étoile brillait pourtant, indiquant le chemin pour les mages d'Orient recherchant le divin. Elle brille comme autrefois, de mille étincelles. Ce Noël est pour toi, c'est la bonne nouvelle. Rejoignons les bergers, le message des anges. La joie est proclamée, élevons nos louanges. Un enfant nous est né, et avec lui l'espoir. Le Fils nous est donné pour changer notre histoire. Tous ne l'ont pas reçu, ce sauveur débonnaire, préférant le refus à la main salutaire. Pourquoi le repousser, ce merveilleux cadeau ? Il ôte le péché pour vivre le renouveau. 1 Timothée 1, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde afin de sauver les pécheurs, dont je suis le premier.